Je démarre simplement avec cette diapositive qui est donc, comme vous le voyez, un frontispice hein, d'une chronique missionnaire, d'une chronique augustinienne de la fin du XVIIe siècle. Donc je vais la commenter un petit peu et pour vous montrer donc à quel point l'archipel philippin a bien été intégré dans l'Empire espagnol et dans l'Empire de Philippe II dès la deuxième moitié du XVIe siècle, puisque sur la gravure qui se répartit en deux parties, vous avez à droite Philippe II et Miguel López de Legazpi, le conquérant de l'archipel, donc juste derrière lui, avec évidemment cette représentation militaire, tandis qu'à gauche, vous avez donc Saint-Augustin, avec derrière lui Andrés de Urdaneta, donc ce moine augustinien, mais qui est aussi le découvreur de la route du retour du Galion, la route de retour de l'Asie vers l'Amérique, puisque jusque dans les années 1565, les Espagnols avaient fréquenté l'Asie, mais n'arrivaient pas à revenir en Amérique. Donc ce moine, qui avait une certaine expérience, qui avait participé à des expéditions antérieures dans la première moitié du XVIe siècle, a dit que lui savait, il a passé environ 8 ans en Asie, lui connaissait, avait compris de quelle façon on pouvait revenir, de quelle façon les navires pouvaient revenir vers l'Amérique. Donc c'est pour cela que vous l'avez derrière Saint-Augustin. Vous avez encore un autre visage qui apparaît derrière, qui est encore une fois un moine augustinien, Martin de Rada, qui était un moine mathématicien et astronome et un des piliers de la fondation de la mission augustinienne aux Philippines. Donc c'est une gravure qui rend aussi hommage à l'importance de l'ordre des Augustins aux Philippines. Voilà, vous avez bien sûr le geste de Philippe II qui désigne l'archipel et qui montre son intégration. Et puis, donc, il y aurait énormément de choses à dire sur la gravure, mais je ne voudrais pas y passer non plus trop de temps. Vous avez un certain nombre de citations du livre d'Isaïe, et vous avez aussi ce soleil qu'on peut interpréter comme levant ou couchant, hein, avec cette phrase « A soli ortu usque ad ocasum laudabile nomen ». Deum, c'est-à-dire du soleil levant au soleil couchant, hein, du levant au couchant, une exaltation de la que le nom de Dieu soit loué. Hein, donc avec une vision assez globale de l'Empire, qui rappelle que les possessions de Philippe II, à partir de l'Union ibérique, ont été des possessions qui englobaient un certain nombre de parties du monde, hein, c'est-à-dire l'Empire portugais et les possessions espagnoles. Voilà, donc une vision globale, une vision exaltée de l'Empire espagnol. La manie espagnole a été fondée officiellement en 1571. Et comme nous l'avons vu ce matin, cette fondation de ville s'inscrit dans un gigantesque processus de création urbaine qu'a entrepris l'Espagne au Nouveau Monde, hein, un gigantesque de processus de création urbaine avec ce prolongement en Asie. Asie, comme l'a rappelé Alexandra Merle, donc Manille comme un point d'expansion maximale hein, de l'Empire espagnol vers l'Ouest. Pour reprendre les termes de Gaspar de San Agustín, dont j'ai montré le frontispice à l'instant, lui parle de los límites de la tierra, hein, donc sous la plume des chroniqueurs du temps, on a vraiment cette impression qu'on a atteint le bout du monde, hein, que c'est un confin de l'Empire, un confin de l'Empire. Je reprends aussi les termes d'un autre jésuite à la fin des années 1660. Une remarque très intéressante. « Desde donde las islas filipinas no hay más que descubrir, ni más reinos que desear. » C'est-à-dire, on est arrivé en Asie, hein, là où les Espagnols, là où les Européens souhaitaient arriver depuis le Moyen-Âge. Hein, donc, avec Legazpi et Urdaneta, s'accomplissait le rêve de Colomb, le rêve de Cortés, hein, d'arriver aux îles, aux épices et d'arriver en Asie. Donc évidemment, l'objet de cette communication, c'est aussi d'étudier les similitudes, les spécificités, les différences par rapport au modèle américain. Alors en Asie comme en Amérique, vous le savez bien, la ville marque une emprise sur un territoire. Elle est un noyau stable, qui se veut stable de défense, d'administration, de diffusion culturelle. C'est en même temps un noyau d'exploitation des ressources et qui va permettre aussi de pénétrer plus avant dans la conquête du territoire. Ce qu'il faut dire aussi en guise d'introduction, c'est que Manille a été un cas unique en Asie où l'Occident a laissé une empreinte profonde, hein, une empreinte profonde puisque comme en Amérique, aux Philippines, les Espagnols ont eu la prétention et ont souhaité, ils ont eu des objectifs globaux de transformation socioculturelle. Hein. Il fallait transformer la société ou les sociétés qu'ils ont trouvées aux Philippines. Il fallait transformer les populations à travers des stratégies urbaines, des stratégies missionnaires, politiques et administratives. Donc finalement, Manille a été une ville très différente de Macao, par exemple, ou de la Batavia des Hollandais, où finalement on avait affaire, enfin je parle plutôt de Macao que je connais un petit peu mieux que de Batavia, où il y a eu finalement un comptoir commercial, une base missionnaire, un entrepôt commercial, mais pas de véritable enjeu de conquête territoriale. Alors que les Espagnols à Manille ont eu la volonté de conquérir l'archipel dans son ensemble, même s'ils n'y sont pas parvenus. Hein, mais ils avaient l'objectif de conquérir l'ensemble de l'archipel. Voilà, donc en fait, pour justifier cette idée d'empreinte, autour de 1600, autour de l'année 1600, Manille était donc devenue la capitale coloniale la plus développée de l'époque en Asie du Sud-Est. Et si on veut la comparer, je pense qu'on pourrait davantage la comparer à Goa, hein, comme centre administratif, religieux, militaire et commercial, qu'à Macao, par exemple. Une autre remarque, je pense, intéressante aussi dans l'introduction, c'est de dire que Manille a été la colonie d'une colonie, hein, comme on le dit souvent, la colonie d'une colonie, c'est-à-dire que l'administration directe de Manille, l'administration des Philippines, se faisait depuis la Nouvelle-Espagne, donc depuis le Mexique colonial. Et c'est le Mexique colonial qui contribuait à administrer les Philippines au nom du roi d'Espagne. Donc ça, c'est un point important. Et puis, il faut se rappeler aussi que la conquête des Philippines a été faite par la génération des vétérans de la conquête de l'Amérique. Donc la conquête s'est faite avec les hommes qui étaient présents en Amérique. Et la conquête s'est faite aussi avec les premiers créoles. Donc c'est une conquête mexicaine, hein, c'est une conquête qui s'est faite depuis la base de départ du Mexique colonial. Et donc les Mexicains, enfin les habitants de la Nouvelle-Espagne étaient tout à fait orgueilleux et très fiers de leur conquête à l'ouest, puisqu'ils arrivaient à accomplir le rêve de Cortés, hein, c'est-à-dire faire du Mexique un centre entre l'Asie et l'Europe. Et être obligé de passer par la Nouvelle-Espagne pour connecter les Philippines à l'Europe. Voilà, donc j'ai mis aussi dans le titre que Manille a été une clé au XVIe siècle, au sens de place forte. Effectivement, on va le voir, Manille a été une position stratégique et un tremplin, puisque durant la deuxième moitié du XVIe siècle, les Espagnols voulaient passer outre, hein, et avaient des projets, différents projets pour conquérir la Chine. Ce sont des projets qu'on développé dans des ouvrages récents, Serge Kruzinski, dont on a parlé aussi il n'y a pas si longtemps, donc avec un ouvrage sur l'aigle et le dragon, où il compare la conquête du Mexique, qui a été une conquête réussie de la part des Espagnols, avec la conquête de la Chine, qui a été absolument ratée par les Portugais. Vous avez aussi un chercheur en Catalogne, Manel Oyer, qui s'est occupé des projets de conquête de la Chine de la part des Espagnols. Voilà, même alors Manille comme tremplin, et puis Manille aussi comme pièce stratégique dans le système de défense de l'Amérique espagnole, puisqu'en effet, prendre pied pour les Espagnols en Asie, c'était aussi empêcher les rivaux de s'installer dans les îles du Pacifique, les empêcher de s'installer en Asie, empêcher les Hollandais, les Anglais, voire les Français de s'installer en Asie. Et ainsi, c'était une façon de protéger la côte occidentale de l'Amérique espagnole, puisque avec le développement des activités minières à partir des années 1540, il convenait aussi de protéger la façade occidentale du continent américain. Donc finalement, bien comprendre que Manille et Cavite allaient compléter le système de défense du Pacifique espagnol face à d'autres places fortes comme Callao, Valparaíso, Concepción ou Valdivia. Voilà quelques idées pour l'introduction, que je compléterai aussi en disant que la fondation de la ville n'a pas été programmée à l'avance, ni par Philippe II, ni par les autorités de Mexico, tout simplement parce que quand l'expédition de Legazpi, qui va fonder la ville, lorsque l'expédition de Legazpi part des côtes mexicaines en 1564, encore une fois, on ne connaît pas la route de retour des navires. On ne connaît pas la route maritime de retour de l'Asie vers l'Amérique. Et donc, sans contrôle de la traversée maritime, sans contrôle de la traversée, impossible de s'établir en Asie. Donc là aussi, c'est important de noter, je pense, que l'expédition de Legazpi porte encore la marque de l'exploration. C'est encore une expédition d'exploration, hein, avant d'être une expédition de conquête. Donc rappelons effectivement que dans ces années 1560, après avoir découvert dans ces grandes lignes le continent américain, le Pacifique était la nouvelle frontière, était la frontière restante à explorer. Et dans ces années 1560, donc il y a Legazpi qui part en 1564 vers les îles du Ponant, mais vous avez aussi Mendaña, par exemple, qui quitte le Pérou en 1568, en quête du continent austral et qui découvre les îles Salomon. Donc dans ces années 1560, on est encore dans une phase exploratoire, bien sûr, exploration du Pacifique et quête de nouvelles terres. Donc l'objectif de cette expédition fondamentale de Legazpi, l'objectif premier, c'était de trouver la route de retour. Grâce à la participation donc d'Urdaneta, que je vous ai montré sur la diapositive précédente, qui connaissait, hein, qui avait passé 8 ans dans les îles Moluques, qui avait participé à une expédition dans les années 1520, la deuxième expédition après Magellan. Alors, les objectifs suivants des instructions. Qu'est-ce qu'on lit dans les instructions qui sont données à Legazpi? Les objectifs suivants sont tout à fait traditionnels. Il faut retrouver des survivants des expéditions précédentes. Il faut trouver des épices ou toute autre marchandise profitable, mais en dehors de la démarcation portugaise, hein, puisque vous savez qu'à la suite du traité de Tordesillas, le monde était partagé en deux et que les Portugais par l'Est avaient pris position jusqu'à Macao. Donc il fallait pour les Espagnols trouver une place en Asie qui ne soit pas dans la démarcation portugaise. C'est un vaste sujet. Voilà, donc dans les instructions, on trouve des expressions du type « descubrimiento de las islas del Poniente hacia los Malucos hein, », vers les Moluques, mais pas dans la démarcation portugaise. Troisième objectif, accumuler le plus d'informations possibles sur la région, car il y avait de toute évidence une volonté d'expansion, hein, une volonté d'expansion de la part de l'Espagne, une volonté de prendre position dans la région. Et donc, je cite par exemple aussi cette phrase clé, à la fois on est dans l'exploration, mais on est dans le projet d'expansion. Y en las islas, tierras y partes que descubrieredes, en saltando en ellas, haréis tomar la posesión de todas y de cualquier de ellas en nombre de su majestad. Donc toutes les îles devaient être prises, enfin devaient être soumises progressivement au roi d'Espagne. Donc finalement, pour fonder un établissement, une grande marge de manœuvre était laissée à Legazpi pour décider ou non d'un établissement espagnol. Je cite encore, « Ici os pareciere que la tierra es tan rica y de calidad que debéis poblar en ella, poblareis en la parte y lugar que más viernes que convenga, y donde mejor amistad os tuvieren, la cual asentareis y guardareis inviolablemente. » Donc une marge de manœuvre pour trouver le meilleur site d'installation et la répétition de cette amitié espagnole qu'on cherche à établir, des relations pacifiques et des relations qui doivent passer par la négociation et par le commerce. J'ai pas le temps de m'y attarder, mais dans l'expédition de Legazpi, on a en condensé toute l'expérience accumulée par les Espagnols en Amérique et donc ne pas éviter la violence le plus possible, éviter l'imposition par la violence, plutôt par la négociation. Voilà, tout cela pour vous dire, pour finir cette introduction et pour passer au premier point, que les Espagnols vont mettre du temps à trouver un site favorable d'installation aux Philippines. Donc ils vont passer 6 ans, ils vont avoir différentes bases, comme je vais le montrer en premier point, différentes bases d'installation, et finalement le site de Manille ne sera retenu qu'en 1571, alors que les Espagnols arrivent en 1565 dans l'archipel. Donc on a 6 ans d'une certaine errance, où l'expédition cherche différentes bases possibles d'installation et pour finalement arriver à Manille. Alors, première base d'installation, voilà par exemple une carte tirée. Donc c'est une carte importante qui est tirée, comme vous le voyez, d'une chronique missionnaire une fois de plus. La deuxième chronique des Jésuites de Francisco Colline, donc une chronique datée de 1663, qui vous montre l'archipel de façon très précise. Une carte de l'archipel de façon très précise, vous avez le nord placé au sud, donc en bas de la diapositive. C'est pour ça que pour des commodités, je pense vous la montrer dans ce sens-là, parce que je pense que vous n'êtes pas très familiarisé avec l'archipel en lui-même. Donc la grande île de Luçon, elle est ici, la grande île de Luçon, avec la vaste baie de Manille qui va nous occuper essentiellement. Mais lorsqu'ils sont arrivés, les Espagnols se sont installés à Cebu, dans la partie centrale de l'archipel qu'on appelle les îles Visayas. Donc ils sont arrivés par l'est du Pacifique, ils sont entrés par l'est dans l'archipel, et ils ont suivi la route Magellan en fait. Et ils se sont installés sur la base principale qu'avait établie Magellan en 1521. Et donc ils ont tiré parti là aussi de l'expérience de la première moitié du XVIe siècle, ils se réinstallent à Cebu et fondent un premier établissement qu'on appelle San Miguel de Cebu le 8 mai 1565. Saint Miguel, Miguel du nom du général, hein, Miguel López de Legazpi, donc fondation d'un premier établissement le 8 mai 1565. Pourquoi Cebu? Rapidement, tout simplement parce que Cebu était le port le plus actif de ces îles centrales. Hein. Donc, c'est encore une fois, l'objectif commercial était premier. Hein. Donc, un port extrêmement actif avec le reste de l'archipel, mais aussi au-delà dans la région. Voilà, puisque les Espagnols cherchaient évidemment des sites profitables et des activités lucratives, bien sûr. Donc, une zone intermédiaire. Pour vous montrer un petit peu les choses de façon plus précise, c'était une zone intermédiaire entre la grande île de Luçon au nord et la grande île de Mindanao, donc qui est déformée hein, par rapport à l'île, le dessin que l'on connaît, la grande île de Mindanao au sud. Le problème, c'est que Cebu n'avait pas de ressources propres, de ressources agricoles suffisantes. Les Iliens se sont aussi parfaitement opposés à la présence des Espagnols. Pourquoi ? Là aussi, c'est une vaste question, mais les Portugais savaient que les Espagnols allaient vouloir s'installer aux Philippines. Et l'année précédente, même 2 ans avant l'arrivée de Legazpi, ils avaient mené des expéditions de pillage hein, dans les îles Philippines en se faisant passer pour les Castillas. Évidemment, les Iliens n'allaient pas différencier les Portugais des Espagnols. Et quand les Espagnols sont arrivés 2 ans après, évidemment, les Iliens étaient plutôt dans une position hostile par rapport aux Espagnols. Et ils fuyaient, ils refusaient de les approvisionner malgré le troc. Et donc, Cebu s'est vite avérée insuffisante pour y établir une capitale durable. Voilà, donc ce premier point stratégique n'allait pas être durable. Et pendant ces 5-6 années, les Espagnols vont errer dans la région, vont explorer la région. Mais leur situation était très difficile. Hein. Ils avaient faim, ils avaient extrêmement peu de ressources. Et en fait, ils sont en recherche permanente de ravitaillement. Donc, d'exploration en exploration et de quête de ravitaillement en quête de ravitaillement, ils vont passer sur l'île de Panay. Panay qui, dans les textes, est réputé grenier à riz de ces îles. Donc, ils y trouvent un peu plus d'approvisionnement, mais à Panay non plus. Hein, les approvisionnements finissent par ne pas être suffisants. Et puis, les Espagnols ont appris, par les Iliens, que la tête de l'archipel, la place la plus développée, la place commerciale la plus développée, c'était Manille ou Mainilad. Mainilad, alors ça s'écrit M-A-Y-N-I-L-A-D, Mainilad, qui est donc la future Manille, dans la baie de Luçon, était la place commerciale déjà la plus développée, aussi bien avec le reste de l'archipel que dans la région, avec la Chine, le Japon, Bornéo, la grande île que vous voyez ici, Bornéo et le reste de l'insule Inde. Donc il y avait déjà un trafic commercial important. Et donc à partir de Panay, 1569, Legazpi envoie une mission avec Martin de Goiti, son maître de camp. Il envoie une mission de reconnaissance. Martin de Goiti prend conscience de l'importance de Manille. Il y a quelques échauffourées et en 1571, l'expédition de Legazpi arrive pour conquérir, pour prendre la place commerciale préexistante, comme on va le voir. Voilà, ce qu'il est important de noter aussi, c'est que l'expédition de Legazpi pour la conquête de Manille a été appuyée par environ 400 Bisayas, donc des habitants des îles centrales, hein, qui s'opposaient au pouvoir musulman, comme on va le voir, qui dominait Manille. Et donc, il y aura des renforts locaux, hein, comme ailleurs en Amérique, des renforts locaux qui vont permettre aussi, qui vont faciliter la conquête de Mainilad par Legazpi. Voilà, alors la conquête de Manille, de Mainilad, a été très rapide, c'est-à-dire que Mainilad était dans la main de musulmans, de malais islamisés. Hein. Ils vont montrer une volonté de se battre, hein, et ils avaient une artillerie, comme on va le voir, mais très rapidement, ils vont refuser le combat, ils vont incendier la place et fuir. Hein. Donc la conquête de Manille elle-même s'est faite de façon très très rapide. De façon très rapide et en même temps par l'incendie de la place, hein, l'incendie de ce bourg, pour ne pas employer le terme de ville, l'incendie de ce bourg allait priver les Espagnols d'un butin et de certaines richesses, bien sûr. Voilà, donc après un point sur cette errance pendant 6 ans tout de même, avant de trouver le site adéquat pour fonder une installation durable, j'en viens au point suivant qui est donc la situation préhispanique. Quelle était la situation de cette Mainilad au moment de l'arrivée des Espagnols ? Alors, d'après les historiens, et en particulier d'après Robert Reed, on peut dire qu'avant l'arrivée de Legazpi, il n'y avait pas de site, pas de réalité urbaine autochtone aux Philippines, avant l'arrivée des Espagnols, ce qui est d'après lui, effectivement, et dans ce qu'on peut lire, ce qui était une exception en Asie du Sud-Est, puisqu'en Asie du Sud-Est, à l'époque, il y avait une série de cités-états côtiers, Ces cités états côtiers parfois étaient des sultanats, avaient été islamisées, et c'était des places commerciales. Des places commerciales, on peut citer Malacca par exemple, ou Brunei, donc toujours dans l'île de Bornéo, au sud-ouest. Ces cités commerciales faisaient partie d'un réseau commercial dans la région. Et Ménilad était intégré dans ce réseau commercial, donc un réseau régional avec la Chine, le Japon, Bornéo et Malacca. Et malgré cette insertion dans ce réseau commercial, Ménilad ne s'était pas développé en tant que ville. Alors, quel terme utiliser ? Bourg, supra-village. On trouve dans les textes supra-barangay, parce qu'on va définir ce qu'était un barangay. Mais en tout cas, ce n'était pas une ville. Ce n'était pas une ville, mais c'était une place dominée par des Malais islamisés, puisque l'islamisation de l'archipel était en cours et que cette islamisation venue du sud-ouest accompagnait les liens commerciaux. Donc, à l'époque où les Gaspis va conquérir Manille, la ville était aux mains de Malais islamisés et formait de Malais islamisés. Alors, Ménilad comptait, au moment de l'arrivée de les Gaspis, environ 2000 habitants. 2000 habitants qui avaient des liens de parenté et de commerce, justement, avec le sultanat de Brunei à Bornéo. Et cette influence islamique était en train de s'étendre le long des côtes de l'archipel, progressivement. Et dans ce contexte, alors quel était le rôle de Ménilad ? Alors Ménilad était en pleine phase de prospérité. Le commerce se développait et Ménilad avait déjà un rôle qui est important pour la suite, un rôle de transbordement, un rôle de transbordement pour les marchandises de l'Asie du Sud-Est qui circulaient dans la région, donc de transbordement entre les marchandises qui arrivaient à Ménilad et qui ensuite étaient redistribuées dans le reste de l'archipel. Donc deux places commerciales essentielles, préhispaniques, la place de Ménilad et celle de Cebu. Alors, le jeune sultan Suleyman de Ménilad avait tenté de fédérer les villages autour de Ménilad, mais il se heurtait à la résistance des natifs, qui étaient animistes, et qui tous n'acceptaient pas cette islamisation. Et donc, il n'avait pas réussi à faire de la place une véritable ville. Voilà. Alors, en fait, autant définir ce qu'était qu'un barangay, justement. Barangay, ça s'écrit B-A-R-A-N-G-A-Y. Le barangay était l'unité sociopolitique de base aux Philippines pendant la période préhispanique. Le barangay désigne un village, mais en fait l'origine du terme est une origine maritime. Le barangay à l'origine désigne une embarcation plate et longue qui servait au transport de plusieurs familles. Donc il est intéressant de voir que cette dénomination qui va désigner un village a une origine maritime, une embarcation plate et longue, qui transportait plusieurs familles. Selon l'historien Philippe Antonio Molina, on pouvait compter entre une trentaine et une centaine de familles sur une embarcation. Et cette embarcation venait à terre pour installer un barangay, là aussi, donc un village, ce qui nous montre que la constitution des villages se faisait par voie maritime et que les Iliens pouvaient aussi bien se transporter ailleurs et que vous aviez donc une organisation relativement temporaire qui pouvait changer de place. Donc il s'agit de montrer qu'en fait, quand les Gaspis arrivent, il est face à une situation sociopolitique d'extrême fragmentation et de dispersion. Il y a une série de barangays, de villages installés le long des côtes ou le long des rivières, le long des fleuves, mais une réalité sociopolitique extrêmement fragmentée et dispersée qui va bien sûr gêner la conquête de l'archipel, puisqu'il va falloir au fur et à mesure conquérir ou établir des négociations et affirmer une domination progressive avec tous ces barangays et tous ces îlots. Donc c'est une tâche qui va prendre énormément de temps après 1571. Donc les caractéristiques de Ménilad, on vient de les voir, proche de Cebu. Alors Cebu, deuxième port préhispanique important pour cette période préhispanique. Et un processus d'islamisation moins avancé qu'à Ménilad. Alors le 18 mai 1571, nous avons la date de l'acte de prise de possession de la ville préhispanique par les Gaspis. 18 mai 1571, avec la soumission solennelle des Rajas Haché le Vieux et Soliman le Jeune, donc deux, de Raja qui reconnaissent la soumission, leur soumission à l'autorité du roi d'Espagne. Dans cet acte de prise de possession, on remarque aussi que immédiatement, les Iliens sont qualifiés d'indios. Donc derrière ce terme, on a évidemment tout l'arrière-plan américain, et donc de considérer que les Iliens sont des habitants qui présentent le même niveau de développement que les habitants préhispaniques, que les différentes populations amérindiennes. Donc ce ne sont pas les Chinois, no son chinos, ce ne sont pas des japoneses, ce sont des indios, donc ils sont assimilés à la réalité culturelle de l'Amérique. Que trouve-t-on aussi dans cet acte de prise de possession très intéressant? On trouve aussi essentiellement le motif religieux. Visiblement, d'après le document, c'est la préoccupation de diffuser la foi catholique et de sauver des âmes, encore une fois, qui est la principale justification de l'expansion et de la domination, de la prise de possession et de la domination sur ces populations. Donc finalement, pour reprendre une expression de Serge Kozinski, puisqu'il l'a bien formulée, le motif de l'évangélisation justifie ce qu'il appelle un droit d'ingérence. Donc au titre de l'évangélisation, au titre de la diffusion de la foi chrétienne, c'est une justification suffisante pour prendre possession des terres et les dominer, des terres païennes. Voilà, donc on aura bien compris, domination politique, domination religieuse, complètement imbriquée, hein, encore une fois, et ça n'est pas nouveau. Je cite par exemple donc cet acte de prise de possession. Y para conseguir tan gran bien, la religion catholique, y para conseguir tan gran bien, era necesario estar y ser sujetos a su majestad y obedecer sus reales mandatos, hein, c'est-à-dire en échange du bienfait de recevoir la foi catholique, il faut obéir aux injonctions royales. Voilà. Donc une fois la prise de possession achevée, les Gaspis invitent bien sûr les habitants à la reconstruction de la ville incendiée, puisqu'ils ont incendié la ville avant l'arrivée, juste au moment de la conquête hispanique. Ils sont associés de façon obligatoire, évidemment, à la reconstruction de la ville, mais cette fois-ci la reconstruction sur un modèle occidental, bien sûr, qui sera le marqueur d'un nouvel ordre politique et culturel. Alors, que demande dans ce document officiel? Qu'est-ce qu'on demande de construire? Qu'est-ce qu'on leur demande de construire? Eh bien, un fuerte, donc un fort. En général, comme on l'a vu ce matin avec la Navidad, première construction militaire en bois ou avec des matériaux tout à fait précaires. Hein. Un fort, une maison pour sa majesté, una casa para su majestad, un camarín grande para cosas necesarias, donc une sorte d'entrepôt pour le matériel et les biens importants. Una casa iglesia para los religiosos, donc de premiers édifices religieux. Una casa para el dicho señor gobernador, donc une maison pour le gouverneur, bien sûr. Y que estas casas e iglesias habían de ser grandes. Y asimismo habían de hacer otras 150 medianas en que se albergase la gente del campo. Donc en plus, ils devaient assurer la construction de 150 habitations moyennes pour le logement de la garnison, pour le logement des membres de l'expédition. Donc voilà la base de la nouvelle ville que devaient édifier les Iliens, les habitants du site de Ménilad. Voilà l'amorce de la première ville, l'amorce de morphologie de la première ville coloniale. Alors ensuite, le 3 juin 1571, hein, donc du 18 mai au 3 juin, le 3 juin, les Gaspis décernent le titre de Ciudad à l'établissement colonial. Encore une fois, il agit seul, hein. Évidemment, il n'a pas reçu d'instructions précises de la part de Philippe II. Il a pris l'initiative de prendre possession du site, de lui décerner le titre de Ciudad, et le 24 juin, il inaugure le conseil municipal, le Cabildo. Donc, par cette série d'actes symboliques, il manifeste clairement l'intention espagnole de demeurer dans l'archipel. Voilà, donc on a une errance de 6 ans, et on a un processus rapide de prise de possession et de fondation d'une ville, puisqu'en un mois, on a posé les bases d'un établissement urbain. Donc, comme on en a parlé ce matin, la capitale espagnole a été fondée sur un site préalablement peuplé et organisé par les natifs, hein, par les autochtones, mais transformé sur un modèle occidental. Alors, cette action personnelle va être entérinée et approuvée par Philippe II, puisque à Madrid, entre les années En 1572, pardon, c'est en 1572 que Legazpi reçoit l'approbation royale. Donc tous les actes posés ont été approuvés par la monarchie à Madrid. Et donc cela nous montre qu'au début des années 1570, il y avait une vraie volonté de la part de la couronne espagnole d'étendre son système colonial en Asie et de s'installer pour s'imposer dans la région. Et si on se rappelle de ce qui va se produire ensuite, 1580, l'Union ibérique, hein, on voit qu'il y a une volonté, encore une fois, de s'étendre. Et de constituer, enfin, on ne met pas de limite, hein, on ne met pas encore de limite à l'expansion elle-même. On reparlera de cette date de 1580, bien sûr. Alors, le choix du site, hein, le choix du site de Manille, parce que Manille, c'est d'abord une baie, hein, l'une des plus larges et les plus importantes, une des plus favorables d'Extrême-Orient. C'est une baie immense, hein, on compte 192 km d'est en ouest. 192 km d'est en ouest, 51 km du nord au sud, et rien que l'embouchure, hein, l'embouchure, si on exclut les îlots de l'embouchure, vous avez quand même 19 km aussi pour l'embouchure. Donc une baie extrêmement vaste, hein, qui formait donc un premier élément de défense naturelle pour la ville, vous voyez, la ville qui sera installée ici. On va parler essentiellement de Manille et de son port Cavite. Donc un site naturel, qui est une défense naturelle. Une baie circulaire est dégagée, n'est-ce pas ? Donc on verrait bien l'arrivée d'ennemis. Une baie qui est aussi resserrée au niveau de l'embouchure, avec des îlots qui l'obstruent en partie. Vous avez le principal îlot qui est celui-ci, Isla de Corregidor, qui permet de surveiller le côté mer, et la sentinelle permanente rend compte à Manille. Donc on peut surveiller aussi l'espace maritime et surveiller ce qui se passe dans la baie. Et l'autre élément extrêmement important, et puis Pedro Ortiz Armengol l'a lui-même écrit sur son schéma, on avait un arrière-pays agricole extrêmement riche à l'époque. Hein, c'était, et donc, vu que ces hommes étaient en quête d'approvisionnement et qu'il fallait trouver des ressources pour se maintenir, l'arrière-pays de Manille était une zone de plaine extrêmement fertile, parce que le terrain était à la fois marécageux, et puis vous avez la présence de volcans aussi en arrière-plan, donc des conditions extrêmement favorables pour le développement agricole, et en particulier les récoltes de riz. Donc dans les marécages, je ne sais pas si vous lisez, hein, mais c'est marqué Ciénagas, ici par exemple, autour de Manille, et puis ici c'est noté aussi, on pouvait développer une agriculture intensive, parce que c'était une agriculture irriguée, on pouvait obtenir jusqu'à 3 récoltes de riz par an. Donc Manille était un site stratégique aussi du point de vue du développement agricole et pouvait fournir des approvisionnements à la ville, à la capitale. Alors, cette baie n'a pourtant pas fait l'unanimité, hein, même si souvent dans les textes, les témoins du temps en parlent de façon tout à fait flatteuse. On sait cependant, Gaspard de San Agustín nous en reparle à la fin du XVIIe siècle, Legazpi a quand même cherché un port directement maritime, hein, un port directement en prise avec la mer. Où est-ce que je vais retrouver ma... Voilà. Il a cherché... Alors ici, vous avez une autre représentation de l'île de Luçon. Vous voyez, c'est une cartographie de 1597, donc c'est une des toutes premières cartes qu'on ait à notre disposition, où vous voyez donc la représentation de l'île du Nord, Luçon, avec l'immense baie de Manille, qui est peut-être aussi représentée de façon hypertrophiée. Et donc, Legazpi pensait trouver un port maritime plus au nord. Pourquoi ? Pour se rapprocher des côtes chinoises et du commerce chinois, bien sûr. Donc, il a cherché il aurait cherché un port maritime plus au nord. Pourquoi ? Parce que la baie, en fait, les approches de la baie est extrêmement dangereux. Hein. Aux approches de la baie de Manille, vous avez un certain nombre de hauts fonds et de courants maritimes contraires. Et donc, les galions avaient infiniment de mal, énormément de difficultés à traverser l'archipel extrêmement fragmenté avec des hauts fonds, des récifs, etc., pour s'approcher aussi de la baie et pour pouvoir entrer jusqu'au port de Cavite. Hein. Et donc, la documentation recense que parfois des galions échouaient au moment d'entrer dans la baie. Donc ce facteur favorable, dit favorable cette baie. Deuxième facteur favorable, la préexistence de ce comptoir musulman aussi, ce comptoir commercial musulman qui montre que la place était intégrée dans les réseaux commerciaux de l'Asie du Sud-Est. Que recherchaient les Gaspis, on l'a vu, ils recherchaient des épices, mais les épices étaient plutôt aux Moluques. Les Moluques étaient portugaises, donc on ne pouvait pas s'installer aux Moluques. Alors on s'installe aux Philippines, parce qu'aux Philippines on peut accéder indirectement aux épices des Moluques. Et ce qui est très intéressant à Manille, c'est qu'on est très proche de la côte chinoise. Et on sait depuis le début du XVIe siècle que le commerce chinois est très intéressant. raffinée, les soies, les porcelaines, ça on le sait depuis toujours en Europe, et que les Chinois recherchent le métal argent. Hein. Les années 1540, découverte des mines américaines. Donc les Espagnols ont les moyens hein, de pouvoir pénétrer ce commerce chinois. Donc l'installation à Manille, c'est s'installer près, au plus près du commerce chinois. Voilà, donc la prise, la domination sur une place commerciale était aussi très intéressante pour les Espagnols. Voilà, alors ce commerce, on va en parler beaucoup, hein, parce que c'est vraiment grâce au commerce que les Espagnols, grâce au commerce chinois, que les Espagnols se sont maintenus dans l'archipel, parce que l'archipel, en fait, n'avait pas de ressources susceptibles d'intéresser les Espagnols. Il y avait des épices, une variété d'épices, une variété de clous de girofle, mais sauvage, hein, qui avait moins de succès que le clou de girofle des Moluques. Donc l'archipel en soi n'avait pas énormément de ressources qui pouvaient intéresser les Espagnols, très peu de ressources profitables. Donc la cause du maintien des Espagnols dans l'archipel pendant plusieurs siècles, ce sera uniquement la proximité, l'accès au commerce chinois, pour répondre à la demande du marché mexicain de Nouvelle-Espagne et du marché européen. Donc je vais reprendre là une expression de Xavier Huetzelan et une réflexion tout à fait intelligente et bien résumée. En fait, les Espagnols ont exploité un site géographique. Ils ont exploité un avantage géographique, c'est-à-dire le fait que Luçon soit tout proche de la côte chinoise. Pour vous parler encore une fois du site naturel, autre avantage très intéressant pour fonder la ville, vous avez un site naturellement intéressant, ce site triangulaire. Ici, vous avez la façade donnant sur la baie, donc la baie de Manille. Ici, vous avez le fleuve Pasig. Et les Espagnols vont s'installer sur cette parcelle triangulaire qui est naturellement protégée, alors au nord, hein, si on pense bien aux choses, au nord par le fleuve, à l'ouest par la baie. Et vous avez derrière, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, un ensemble de terrains marécageux qui permet aussi de rendre difficile l'approche d'ennemis potentiels. Et donc le site apparaissait lui-même comme naturellement défensif, naturellement défendu. Et donc c'est ce site que va retenir Miguel López de Legazpi pour fonder la ville. Voilà. Alors le problème, simplement, comme on l'a un petit peu vu ce matin, le problème du fleuve Pasig, c'est que vous aviez des bancs de sable aussi à son entrée, donc une barre sablonneuse qui empêchait l'accostage de navires de haut bord, ce qui explique pourquoi il y a eu le développement du port, hein, le port de commerce et l'arsenal s'est développé au sud, là aussi je m'excuse, vous avez le nord en bas hein, de cette image. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas constituer de port véritablement important tout près de Manille, on l'a établi à Cavite, et à Manille arrivaient simplement des navires, enfin des bateaux à fond plat, hein, les embarcations locales essentiellement. Des avantages naturels très intéressants. Évidemment, le désavantage principal, plusieurs désavantages, donc cette présence de zones marécageuses qui est évidemment très mauvaise pour la santé, hein, la présence de ces marécages. Et puis aussi, l'inconvénient, c'était le climat extrêmement difficile, le climat tropical extrêmement dur de Manille, avec une humidité très importante, essentiellement l'été, avec une saison humide l'été et des typhons hein, pendant les mois de juillet, août jusqu'en octobre. Une période de très forte chaleur de mars à juin, et puis un hiver un petit peu plus agréable, c'est-à-dire que le climat était extrêmement défavorable à la santé des Espagnols, hein, et en permanence dans la documentation, on a un taux de mortalité très important à cause du climat, à cause de l'adaptation qui ne se fait pas, de cet acclimatement qui se fait difficilement, et à cause des combats, bien sûr, des Espagnols dans la région, combats de conquête ou combats contre différentes formes de piraterie, comme on essaiera de le voir. Donc, finalement, pour reprendre un petit peu ce qui a été dit ce matin, il y a eu, vous le savez peut-être, des ordonnances de Philippe II en 1573, des ordonnances qui établissaient tout un code pour l'établissement de villes dans des sites favorables. Hein. Ce sont des ordonnances de 1573, donc Legazpi ne les a pas connues directement sur place, elles ne sont pas arrivées tout de suite. Mais il y avait une volonté de choisir des sites favorables. Et vous voyez, là, comme Jean-Paul Dujas l'a dit ce matin, la difficulté de trouver un site favorable sur tous les plans. Donc par exemple, Manille, vous avez des facteurs favorables et des facteurs tout à fait défavorables aussi. Voilà.
Alors, puisque ce climat était tout à fait défavorable aux Espagnols, donc les Espagnols vont s'installer dans l'intramuros, comme on va en parler bien sûr, mais les Espagnols se sont aussi installés, ont établi les riches Espagnols qui se sont enrichis par le commerce du galion, se sont aussi établis hors les murs, hein, et donc le long du Passy, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ils vont faire construire des résidences d'été, des maisons de campagne pour passer la saison chaude. Donc même si nous allons parler essentiellement de l'urbanisation de l'intramuros, les Espagnols pouvaient aussi se disséminer dans des endroits plutôt habités par des indigènes, hein, par différentes populations asiatiques, mais aussi hors les murs. Alors, je vous donne simplement, par exemple, le témoignage de Pedro Chirino, qui est un des premiers jésuites à parvenir dans les îles. Il est l'auteur de la première chronique jésuite en 1604. Et voilà le portrait qu'il vous fait de Manille. Il vous montre que les Espagnols se sont établis aussi en dehors de Manille, dans ces termes, en disant « Que todo de largo a largo seis leguas, donc hors de Manille, que hay desde que sale a la laguna, donc c'est six lieues, qui vont vers la Laguna de Bay, está poblado de casas, donc toda esta parte, toute cette partie, hein, poblado de casas, huertas y haciendas de ganado, con una variedad muy agradable. Y como todo el año allá los árboles tienen hoja, con el verdor y frescura se aumenta la recreación. Donc les Espagnols qui respirent un peu plus en dehors de cet intramuros. Et quelques touches pour vous donner donc l'établissement de certaines haciendas, de jardins maraîchers et de maisons espagnoles au milieu d'autres établissements des populations asiatiques. Je voudrais passer au point suivant, qui est donc parler de Manille. Parler de Manille, c'est parler d'une morphologie urbaine induite par le commerce transocéanique. Comme je vous l'ai dit auparavant, sans commerce avec la Chine, les Espagnols ne se seraient probablement pas maintenus aux Philippines, qui n'avaient pas de ressources. Donc l'aspect vital, hein, d'établir une connexion maritime entre l'Amérique et l'Asie pour accéder au commerce chinois et établir un lien commercial rentable, un lien commercial politique, économique, religieux, etc. Donc c'est effectivement le commerce du galion qui va conditionner en grande partie la morphologie de la ville coloniale. Le galion, comme on va le voir, vous le savez peut-être certains d'entre vous si vous avez lu un petit peu sur les Philippines coloniales, le galion a été le lien essentiel qui a permis aux Espagnols de se maintenir en Asie. Le galion, c'est simple, les Espagnols de Manille l'appelaient el socorro, hein, le secours. Donc tout ce qui était important, sans le galion, encore une fois, il ne se serait pas maintenu aux Philippines. C'est le galion qui apportait non seulement les ordres du roi, c'est le galion qui amenait les administrateurs de la Manille coloniale, c'est le galion qui amenait des colons, des immigrants, c'est le galion qui apportait des marchandises à la fois américaines et européennes, c'est le galion qui apportait l'argent pour payer le commerce chinois. Donc ça a été le nerf essentiel, cette liaison maritime et ce galion a été l'instrument essentiel qui a déterminé, en fait, hein, qui a déterminé le système colonial de l'archipel et qui a transformé complètement la physionomie de Manille. Le galion comme agent transformateur de la physionomie de Manille au long de ces 250 ans, puisque ce commerce par galion, on va l'avoir au moins une fois par an, hein, une boucle annuelle jusqu'en 1815. C'est là où l'on voit qu'encore une fois, l'Empire espagnol tenait par la domination, hein, de routes maritimes, par la domination des mers. Donc encore une fois, c'est un cas très manifeste de thalassocratie, hein, sans maîtrise de la navigation transpacifique, pas de présence coloniale. Alors je reprends là aussi une expression des historiens Jean-Pierre Poussou et Xavier Huetz de Lan, qui dans un ouvrage parle d'une colonie sous perfusion. C'est exactement ça, c'est-à-dire que sans l'apport du galion, pas de colonisation possible ni durable. Alors dans ce commerce international, on a deux interlocuteurs essentiels. D'une part les Chinois qui sont les fournisseurs des produits de luxe asiatiques. Essentiellement, on parle surtout des porcelaines et des soieries, mais aussi de bien d'autres objets comme des pièces de mobilier, des objets d'art, énormément de produits divers. Donc les Chinois vont finalement alimenter un triple marché. Si vous vous souvenez, période préhispanique, le commerce chinois alimente déjà l'archipel. Donc on a le maintien d'un commerce chinois qui alimente, hein, qui est une source d'approvisionnement pour les habitants de l'archipel, les différentes populations. Premier niveau de commerce. Les Chinois vont aussi alimenter et fournir énormément de produits alimentaires ou non aux Espagnols installés à Manille. Donc on a un deuxième commerce régional des Chinois avec les Espagnols de Manille qui leur apportent de la farine de blé, par exemple, hein, puisque les Espagnols avaient beaucoup de mal avec le riz et réclamaient de la farine de blé, la possibilité de faire du pain, etc. Donc par exemple de la farine de blé, mais aussi des métaux et d'autres produits. Donc les Chinois approvisionnaient les Espagnols de la colonie. Et un troisième niveau, les Chinois, par le commerce du galion, allait approvisionner aussi l'Amérique, donc le reste de l'Empire espagnol, et ensuite l'Espagne. Donc on a un commerce chinois à trois niveaux, régional, enfin local, on va le voir, régional et aussi intercontinental. Donc un commerce extrêmement florissant, comme on va le voir. Et bien sûr, un commerce qui va se développer de façon très importante jusque dans les années 1620, pour parler de notre période essentiellement. Premier interlocuteur commercial, premier fournisseur important. Deuxième acteur commercial, les Espagnols qui, eux, apportent l'argent des mines de Zacatecas et de Potosí. Donc, qui apportent ces réaux, ce real de aocho, ou ce peso, hein, pour payer le commerce chinois. Donc là aussi, je reprendrai une expression de Xavier Huetz de Lan qui est très, très intéressante. Il nous parle, lui, d'un deuxième commerce triangulaire. Hein, cette triangulation entre Chine, Philippines et Nouvelle-Espagne comme étant une réplique ou une variante du commerce triangulaire qu'on avait dans l'Atlantique, qui se développait dans l'Atlantique à l'époque. Alors ce commerce chinois, ce commerce entre la Chine et la Nouvelle-Espagne va commencer dès les années 1574, 73, 74, les choses se mettent en place. Et dès 1580, on a un commerce régulier, annuel et parfaitement profitable qui se met en place entre la Nouvelle-Espagne, Manille et les provinces du sud de la Chine, essentiellement. Donc on est dans cette phase de développement commercial. Alors ce commerce du galion, extrêmement profitable comme on va le voir, avec des bénéfices pour les Espagnols qui allaient de 100 à 300%, hein, donc c'était vraiment c'était le grand jeu du commerce du galion, ce qui va provoquer le fait que les Espagnols installés en province, dans d'autres îles et dans d'autres villes, vont arriver à Manille et vont se concentrer essentiellement à Manille. Donc je parle d'une période où les Espagnols vont devenir essentiellement présents à Manille et très peu présents dans le reste de l'archipel. Donc encore une fois, la conquête de l'archipel ne s'est pas effectuée dans son ensemble. Donc, Manille devient une colonie marchande. Hein. Manille devient essentiellement une colonie marchande. Et toute la vie coloniale est rythmée par le galion. Hein. Donc, c'est une vie coloniale, une vie économique essentiellement rythmée par le galion, ce qui va aussi inhiber le développement d'activités économiques dans d'autres domaines et dans le reste de l'archipel. Donc, on arrive vraiment à une ville qui va devenir macrocéphale, hein, et qui va absorber l'essentiel de l'activité économique coloniale de l'archipel. Alors, ce commerce se développe de façon extrêmement florissante. Le seul problème, c'est que la couronne espagnole a voulu intervenir. Là encore, la couronne espagnole est face à un empire qui a des dimensions pluricontinentales. Il fallait ménager les intérêts de chacun. Et les intérêts du Pacifique étaient parfaitement contraires aux intérêts de Séville. Les soies chinoises qui arrivaient à très bas prix à Acapulco et à Mexico étaient une trop forte concurrence pour les soies sévillanes, les soies espagnoles. Donc la couronne espagnole a commencé à intervenir pour établir des mesures protectionnistes pour nous aujourd'hui, a commencé à vouloir endiguer et canaliser ce commerce. C'est ainsi qu'en 1582... le Pérou est interdit de commerce direct avec les Philippines. Hein, vous imaginez bien qu'un commerce libre avec la Nouvelle-Espagne et le Pérou aurait été extrêmement florissant et qu'on aurait eu un argent américain qui aurait été largement dévié vers le Pacifique plutôt que vers l'Atlantique. Hein. Donc dès 1582, on est juste 10 ans après la fondation de Manille, la couronne interdit à Lima de commercer directement avec les Philippines. Les grandes mesures protectionnistes datent de 1593, où il est interdit au Pérou d'accéder au commerce chinois interdiction faite au Pérou d'accéder au commerce chinois par Mexico, Donc interdiction d'un commerce intercolonial autour des objets, autour des marchandises chinoises. Et en 1593 aussi, on configure, hein, on limite le commerce à un galion, une boucle annuelle par an, avec un navire, un galion de 300 tonneaux. On avait simplement l'autorisation d'exporter l'équivalent de 250 000 pesos de marchandises chinoises. En échange, on ne pouvait recevoir aux Philippines que 500 000 pesos d'argent pour ces 250 000 pesos de marchandises chinoises, donc un commerce extrêmement contingenté. Vous imaginez bien que la contrebande allait se développer de façon assez spectaculaire, mais le commerce, à partir de 1593, est contingenté, est canalisé et est intervenu par la couronne espagnole, ce qui va quand même ce qui va freiner en partie le développement commercial. Donc voilà pour le commerce, parce que nous nous intéressons à Manille, mais on ne peut pas parler de la physionomie de Manille hein, sans parler de l'importance de ce commerce du galion. Alors, l'urbanisme manillais, je reviens à mon plan parce que c'est quand même celui qui est le plus parlant, l'urbanisme manillais. Rappelons aussi que Legazpi avait passé 30 ans au Mexique, dans ce Mexique colonial. Donc il est arrivé Legazpi au Mexique à la fin des années 1530. Il part pour l'archipel en 1564. Il a donc passé une bonne trentaine d'années à Mexico. Dans cette période de fondation et de développement de la vie coloniale, il a voyagé hein, en tant que fonctionnaire. Il a voyagé dans ce Mexique colonial. Donc, il était parfaitement au fait du modèle urbain qu'il allait devoir imposer ou qu'il allait devoir fonder dans l'archipel. Et donc, c'est ainsi qu'il prend le modèle hispano-américain qu'on a vu ce matin, ce modèle en damier, pour l'imposer sur le site de Menilad. Alors, je vous cite brièvement le témoignage d'Antonio de Morga, qui est un autre personnage important des îles, qui a écrit le premier traité laïque sur l'archipel philippin. Antonio de Morga, il l'a publié en 1609. Donc, il était fonctionnaire, il était lieutenant du gouverneur à partir de 1598 à Manille. Voilà le portrait qu'il nous donne de l'urbanisme manillais. À la boca del río, donc à l'embouchure, que desagua en la bahía, en una punta que se hace entre el río y la mar, donc ce delta, Legazpi, c'est moi qui rajoute, hein, ocupola toda con esta población, repartiola a los españoles por solares iguales, hein, ces fameux terrains, lots, parcelles de terrain à construire, solares iguales con calles y cuadras bien concertadas, derechas y a nivel, dejando Plaza Mayor bastante en cuadro, donc elle est ici la Plaza Mayor, hein, bastante en cuadro, donde puso la Iglesia Mayor, donc construction de la cathédrale, y casas de la ciudad. Otra Plaza de Armas, qui est donc la place qui est face au fort de Santiago, hein, Plaza de Armas, en que estaba el fuerte, donc le fort de Santiago qui est ici, qu'on va revoir tout à l'heure, y allí también las casas reales, y dio sitios a los monasterios. Donc vous avez, je n'ai pas repris toutes les lettres, mais vous avez les différents emplacements des couvents, des différents ordres, des cinq ordres principaux qui vont être présents à Manille. Donc los monasterios, hospitales, hein, la fondation d'hôpitaux aussi, y ermitas que se habían de poblar, y como ciudad que había de crecer y aumentarse cada día como ya lo está. Donc au moment où il écrit, à la fin du XVIe siècle, la ville est déjà en phase de croissance. Porque en el discurso del tiempo, que a que se ganó se ha ilustrado como la que más en todas aquellas partes, donc un témoignage sur la croissance de la manie coloniale, et en particulier de son intramuros. Alors, le tracé de l'enceinte, ça je vais le laisser de côté. Alors, l'enceinte, un polygone irrégulier, comme vous le voyez, un polygone irrégulier de 4 km de périmètre, et un espace urbain qui, comme en Amérique, s'organise autour des bâtiments principaux. Alors, je n'insiste pas, on vient de le lire dans la citation. Hein, mais comme on l'a vu ce matin, c'est sur la Plaza Mayor, on a la Audiencia, on a la cathédrale, on a le palais du gouverneur. Hein, donc, la représentation de tous les pouvoirs civils, militaires et religieux. Alors, pour la cathédrale, par exemple, on a une première cathédrale construite en bois, qui a été détruite par un incendie très important qui a ravagé toute la ville en 1583. Alors, on édifie une deuxième cathédrale en pierre, cette fois-ci, mais qui va être détruite par un tremblement de terre en 1600, destruction de la deuxième cathédrale en pierre. On inaugure la troisième cathédrale en pierre en 1614 et à nouveau elle est détruite par un tremblement de terre en 1645. Donc j'ai pas le temps de m'étendre sur ces conditions sismiques. C'est un archipel volcanique et c'est un archipel situé près de la dorsale du Pacifique à l'est de l'archipel. Donc il y a des fléaux naturels constants qui vont rendre aussi difficile le choix des matériaux pour la construction de la manille coloniale, comme on va le voir un petit peu aussi. Donc une architecture dans cet intramuros, une architecture essentiellement militaire et religieuse, et puis aussi les maisons des particuliers. Alors là aussi, je reprends Antonio de Morga, parce qu'il est très difficile d'avoir des évaluations démographiques pour cette fin du XVIe siècle. Les chiffres varient énormément. Tout ce qu'on sait, c'est que les Espagnols étaient très peu nombreux dans l'archipel et très peu nombreux à Manille. Lui, il nous donne 600 maisons de particuliers, donc 600 familles espagnoles dans l'intramuros. Alors je ne sais même pas par quel coefficient multiplier, c'est le nombre de membres des familles, puisqu'évidemment il y avait très peu de femmes espagnoles qui immigraient dans l'archipel, donc les familles n'étaient pas des familles nombreuses de toute façon. Donc vraiment très très peu d'habitants comme on va le voir. Ce qu'on peut constater aussi, qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que pendant 10 ans, les 10 premières années de la constitution de la manille coloniale, les Espagnols construisent avec les matériaux locaux, comme on l'a vu ce matin avec Jean-Paul Duviol, je pense qu'il en a parlé pour Buenos Aires. On commence par construire, pas en pierre, mais en employant les matériaux des autochtones, des populations locales. Donc les constructions, là aussi, il faut imaginer une première ville coloniale pendant 10 ans, 1571 jusqu'à 1583, une ville tout à fait précaire avec des constructions en bambou et en feuilles de palme, avec une palissade en bois, donc une ville parfaitement... une ville à la fois sur le modèle occidental, une ville métisse, à la fois sur le modèle occidental en damier, mais avec des constructions en matériaux locaux, et pas du tout encore en pierre et en briques. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'en 1583, il y a un incendie dévastateur, puisqu'évidemment, ces matériaux sont inflammables, incendie qui ravage toute la ville. Et là, à ce moment-là, les Espagnols, qui ont pris conscience que voilà, ils allaient rester de façon durable, le roi les appuyait, etc., on décide à partir de 1583 de construire en dur, d'utiliser de la pierre, d'utiliser de la maçonnerie, des briques, des tuiles, comme on l'a vu ce matin. Et donc, on reconstruit à partir de 1583... une nouvelle capitale coloniale, en pierre, etc. Ce qui nous montre bien qu'à partir de 1583, le commerce commence à être florissant et qu'on a davantage de moyens pour construire une capitale durable. Rappelons aussi que 1583, c'est 3 ans après, encore une fois, l'Union ibérique. Donc il y a une volonté de se maintenir, c'est parfaitement justifié. Et Philippe II domine aussi bien l'Empire portugais que son propre empire espagnol. Voilà, donc on a une architecture monumentale qui commence à partir de 1583. Je vais peut-être simplifier certaines choses. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette architecture monumentale va démarrer sans architecte. Il n'y avait pas d'architecte sur place. Donc dans la documentation, c'est en fait le premier supérieur de la mission jésuite, Antonio Cedeño, qui est connu soi-disant pour ses talents d'architecte et c'est lui qui va former la main-d'œuvre philippine, je simplifie, la main-d'œuvre tagalogue, qui va former cette main-d'œuvre tagalogue et puis les Chinois sur place pour les inciter. Évidemment, c'est eux qui vont construire la capitale coloniale, donc il faut les former. C'est lui qui va dessiner le plan de la cathédrale et qui va donc avoir une action décisive pour la construction urbaine de la manille coloniale. Voilà, donc le changement est complet à partir des années 1580, et on peut dire encore une fois qu'autour de 1600, la capitale coloniale des Philippines est une capitale assez proche vraisemblablement des capitales américaines. Alors je cite Morga, là encore, « Las calles de la ciudad son bien pobladas de casas, las más de cantería ». Donc en maçonnerie et en pierre. Et algunas de madera, donc il y a très peu de maisons en bois, puisqu'il était interdit de construire en bois. Algunas de madera, muchas techadas de teja de barro, donc on est passé aux tuiles, on abandonne les feuilles de palme. Y otras de nipa, donc toute la ville n'est pas encore homogénéisée. Buenos edificios altos y anchurosos, con piezas grandes, muchas ventanas y balcones, y rejas de hierro, que las adornan, donc ces grilles que vous connaissez aux fenêtres, y cada día se van fabricando y perfeccionando más, serán 600 casas. Voilà. Alors l'inconvénient des constructions en pierre, c'est le problème sismique et donc la vulnérabilité aux tremblements de terre destructeurs, comme celui de 1645 ou 1658, par exemple. D'accord ? Alors, donc, on est obligé d'évoluer, on est obligé de s'adapter, et à partir de 1645, on essaye une architecture mixte, hein, à partir de 1645, une architecture mixte qui puisse résister aux tremblements de terre, c'est-à-dire qu'on va utiliser plutôt des poteaux en bois, on va réserver la pierre essentiellement au niveau rez-de-chaussée, qui sont des espaces de stockage dans les maisons, puisque ce sont des maisons commerciales. Donc on réserve la pierre plutôt pour le rez-de-chaussée, et ensuite on passe au bois pour le premier étage. Hein. Donc une architecture mixte et qui s'adapte aux contraintes naturelles. Voilà, vous aurez vu aussi d'emblée que nous avons affaire à une ville fortifiée, n'est-ce pas, dès le début de la période espagnole. Donc comme on l'a vu ce matin, les Malais musulmans avaient, eux, une palissade en bois, hein, une palissade extrêmement précaire. Donc les Espagnols vont continuer le tracé de la palissade et la remplacer progressivement par des remparts en pierre. Là aussi, les remparts en pierre, il faut attendre 1593 pour qu'il y ait une vraie volonté et les moyens financiers de construire ce rempart en pierre. Jusqu'en 1593, on a une palissade en bois qui rendait la ville extrêmement vulnérable aux attaques locales. Et il y a eu des attaques chinoises, en particulier en 1574, une attaque très importante qui aurait pu éliminer complètement les Espagnols de Manille. Donc la ville est extrêmement vulnérable malgré les éléments que j'ai pu vous citer auparavant. Donc une enceinte bastionnée, avec un fort principal, le fort de Santiago, ici, à l'embouchure de la baie. Et puis, une série de portes ouvrant sur la baie. Hein, et une série de fortins vis-à-vis du côté terrestre. Hein, donc, une enceinte qui va progressivement entourer toute la ville. Alors, les remparts ont été payés par des taxes, hein, les taxes commerciales payées par les Chinois. Le commerce chinois qui entrait à Manille, les Chinois devaient payer une taxe. Cette taxe était utilisée pour le financement des remparts, ainsi que le produit du monopole sur les cartes à jouer, par exemple. Voilà, mais je pense que ça, je vais pouvoir passer de toute façon. Alors, l'importance des fortifications. Je vous rappelle qu'à la fin du XVIe siècle, les Hollandais sont extrêmement présents dans cette région du Pacifique et vont à plusieurs reprises tenter de prendre Manille, ce qui prouve son importance stratégique. Donc, les Hollandais, parmi d'autres menaces régionales, étaient une menace permanente qui a fait qu'il a fallu renforcer les remparts et adapter les fortifications au fur et à mesure. Alors vous avez Lourdes Díaz Trechuelo, une historienne andalouse qui s'est spécialisée, qui a énormément écrit sur les fortifications. Ce qu'elle nous dit, c'est que cependant il n'y avait pas de vision d'ensemble, hein, et que chaque gouverneur, au coup par coup, a construit, détruit une partie des remparts pour les adapter aux différentes menaces. Alors ce qui est dit aussi et qui est très important, c'est qu'on n'a tenté aucune œuvre de fortification dans les villages environnants. On y a par contre construit des couvents et des églises qui pouvaient servir de refuge en cas de révolte et en cas d'attaque. Mais ce problème de la non-fortification des villages environnants n'a pas été résolu. Alors je n'aurai pas le temps d'en parler, mais en 1603, il va y avoir une révolte chinoise très importante en 1603. Et qui va être maté par les Espagnols, mais on en a parlé ce matin, hein, pas de celle-ci, mais d'une autre. Hein, on a parlé de massacre, et les Espagnols vont massacrer 20 000 Chinois. Hein. Donc c'est un événement absolument crucial. Et les Chinois vont bien sûr s'installer aussi dans les monastères et dans les églises, qui vont leur servir de refuge pour ensuite tenter d'attaquer l'intramuros. Hein. Ça a duré 3 semaines, hein, cette attaque de Manille. Et là encore, les Espagnols ont été aidés par certaines populations, ont été aidés par les Japonais notamment, qui étaient les grands ennemis des Chinois. C'est un événement tout à fait important de ces premières décennies de présence espagnole. Voilà. Et puis, se rappeler aussi que Manille ne pouvait pas bénéficier de renforts depuis la Nouvelle-Espagne. Hein. Manille devait se défendre avec ses propres forces. Donc, l'importance d'avoir un site extrêmement fortifié pour pouvoir faire face aux multiples périls. Hein. Alors, j'ai pas non plus beaucoup de temps pour parler des multiples périls. J'ai parlé des Hollandais, donc un péril européen. Mais sur place, vous aviez d'autres périls. Donc, le péril des Chinois, parce qu'il y avait aussi beaucoup de piraterie chinoise, surtout avec ce commerce florissant qui se développait. Donc, il y avait des pirates chinois, il y avait des pirates japonais. Et puis, il y avait les musulmans très présents dans l'île du Sud, hein. Les musulmans qui ne cessaient de harceler les populations christianisées dans les Visayas, dans les îles centrales, et ces musulmans essayaient de parvenir aussi vers Manille, faisaient des expéditions de pillage chaque année, et donc il fallait véritablement un site fortifié et payer une garnison pour défendre la présence espagnole dans l'archipel et lutter contre ces menaces. Alors, Manille, c'est aussi un port. Comme je vous l'ai dit, le port n'a pas pu se développer au pied des fortifications. Donc, le port a été développé sur une anse naturelle hein, qui se situe donc au sud-est de la capitale. Et donc, vous voyez que ce port aussi a été fortifié. Donc, Cavite est très important. C'est pour ça qu'on parle souvent du complexe Manille-Cavite, puisque non seulement vous y avez le port de commerce, mais vous avez aussi l'arsenal, donc toute la partie militaire et le chantier de construction navale, puisque les galions ont été construits dans ce port, hein, puisque les bois exotiques, les bois philippins étaient excellents pour, étaient très durs, comme le teck ou le molave, très durs pour la fabrication des coques et pour pouvoir résister aux attaques en mer. Hein. Donc, un port aux multiples fonctions, mais un élément stratégique et clé pour la survie aux Philippines, pour le maintien de la colonie aux Philippines. Donc, je n'insiste pas trop, donc des travaux de fortification qui commencent essentiellement au début du XVIIe siècle, et des travaux, comme à Manille, très lents, faute de ressources, hein, donc on n'a pas accordé beaucoup de ressources pour ce genre de chantier. Là aussi, pas de plan d'ensemble. Vous voyez que vous avez, en fait, les Espagnols ont creusé un fossé hein, de part et d'autre de cette péninsule, un fossé de 80 pieds de large hein, pour se défendre. Et puis, vous avez ici le fort de San Felipe aussi pour défendre la place vis-à-vis du reste de la baie vis-à-vis du reste de la baie essentiellement. Vous aurez compris que Manille va croître et prospérer hein, jusque dans les années 1600-1615, on va dire. Donc une croissance urbaine très importante, uniquement liée au commerce. Donc encore une fois, c'est vraiment le commerce qui a déterminé la morphologie urbaine de cette ville. Donc Manille, vous aurez compris, c'est une capitale. Donc elle a toutes les fonctions, elle réunit toutes les fonctions. Capitale administrative, je vais y revenir, ville de garnison pour l'essentiel des forces militaires espagnoles. Sur le plan administratif, qu'est-ce qu'on peut dire? Évidemment, les Philippines étaient dirigées par un gouverneur qui avait tous les pouvoirs, enfin énormément de pouvoirs, parce qu'il était situé à 2 ans de distance de Madrid. Hein, donc il y a, je vous rappelle la diapositive du début, énormément de distance-temps par rapport à Madrid. Et donc il avait tout pouvoir d'initiative pour faire face à la situation locale. Il était gouverneur et capitaine général. Donc tous les pouvoirs exécutifs et militaires. Bon, à partir de 1583, il y a eu une audiencia. Donc son pouvoir a été limité par la audiencia. Mais bon, néanmoins, son pouvoir était très, très important. Il était aussi vice-patron de l'Église des Philippines. Hein, donc il pouvait intervenir dans la vie missionnaire et l'organisation de la mission dans l'archipel. Et il avait bien sûr la haute main sur toutes les affaires militaires. Donc, une ville ayant tous les statuts, donc une forteresse, c'était aussi, donc on l'a vu, une forteresse, une ville de garnison, un port intercontinental avec Cavite, et puis, je n'en ai pas assez parlé, le marché chinois du Parian, que je vais aborder un petit peu plus loin, une capitale ecclésiastique, hein, puisque sur le plan d'Anier, je ne l'ai pas trop détaillé, mais tous les ordres religieux avaient leur maison mère et leur couvent dans l'intramuros, donc une capitale ecclésiastique. Les centres d'enseignement étaient aussi réunis à Manille, bien sûr. Vous aviez les hôpitaux. Hein. Donc, vous avez vraiment un concentré du monde colonial hispanique dans cet intramuros et en milieu asiatique. Donc, on peut dire de cet intramuros qu'il était vraiment le symbole urbain de l'ordre espagnol en Asie. Alors, ce qui est intéressant, ce qui est très important aussi de voir, c'est que c'est l'impact commercial du galion qui va aussi transformer la composition ethnique de la population de Manille. Je vous rappelle que quand les Espagnols arrivent, on a 2000 Tagalogs islamisés, à peu près, hein, sur le site de Ménilad. Quand les Gaspis arrivent, on a aussi, il nous dit qu'il y a sur place aussi une quarantaine de familles chinoises qui se consacrent au commerce entre la côte chinoise et Manille. Mais voilà, hein, le site est assez homogène. C'est un site malais avec la présence de certains Chinois. Mais avec le développement du commerce espagnol et transpacifique, la capitale devient multiethnique et métissée, comme on va le voir. Donc, 2000 habitants en 1571, on passe en 30 ans à 28 000 habitants. Et en 1620, on est environ à 41 000 habitants, en comptant l'intramuros et les faubourgs. Hein, 41 000 habitants quand même en 1620. Parmi les chiffres qu'on peut proposer en 1620, vous avez environ 2400 Espagnols, environ 3000 Japonais, pour avoir une idée, parce qu'il y avait une colonie commerciale japonaise aussi importante, 16 000 Chinois, effectivement. 20 000 Philippins, alors 20 000 Philippins, c'est-à-dire 20 000 Tagalog, mais pas seulement. Aussi, il y avait aussi des populations qui venaient des îles centrales. Donc on a un cas tout à fait unique, me semble-t-il, dans l'Empire espagnol, un cas tout à fait unique et spécifique de cosmopolitisme dans l'histoire de l'Empire espagnol. Voilà, donc toutes ces... Alors, comment parler de ces populations asiatiques? Donc je vous ai dit, ce sont des colonies essentiellement commerciales, hein, colonies au sens de groupes nationaux, hein, formés de groupes ethniques cohérents. Donc une colonie japonaise, puisqu'il y avait un commerce avec le Japon. Et puis, il faut se rappeler aussi que le Japon était en voie de christianisation avec les Portugais à partir du port de Nagasaki. Et vous savez peut-être qu'à la fin du XVIe siècle, les persécutions ont commencé contre les chrétiens du Japon, hein, sous Hideyoshi. Et donc, il y a un certain nombre de Japonais de Japonais chrétiens qui s'étaient fait baptiser, qui ont émigré à Manille, qui ont émigré aux Philippines pour échapper aux persécutions. Donc, il y a à la fois des familles commerciales et aussi des Japonais christianisés qui sont arrivés à Manille. La colonie chinoise est essentiellement une colonie commerciale. Alors, c'est une colonie complexe. Il y a à la fois énormément de marchands, mais il y a aussi beaucoup d'artisans. Donc, c'est très important aussi de bien savoir que les Chinois vont contribuer à la construction de Manille. Les Chinois, en tant qu'artisans, vont aussi contribuer à toutes les tâches dont les Espagnols avaient besoin. Donc, à la fois les Chinois et les Tagalogs vont être la main-d'œuvre des Espagnols et les Chinois essentiellement. Donc ça aussi, je trouve que c'est très intéressant, c'est que par rapport à l'Amérique où on a une main-d'œuvre en décroissance, hein, tout au long du XVIe siècle, les Indiens meurent, les Indiens sont soumis à différents types d'exploitation et il faut à la fois les exploiter mais les préserver, si on pense un peu aux ordonnances du vice-roi Toledo au Pérou. Donc on est face à une main-d'œuvre qui décroît. Aux Philippines, et c'est un petit peu ce qu'explique le massacre de 1603, les Espagnols sont face à une main-d'œuvre qui est sans cesse en augmentation, à une main-d'œuvre chinoise sans cesse en augmentation, que ce soit pour des raisons commerciales, que ce soit pour des raisons laborieuses. Donc, dans la documentation, on voit que les Chinois font tout. Ils sont maçons, ils sont commerçants, ils sont laboureurs, ils travaillent dans les champs, ils sont maraîchers, enfin, ils font tout, n'est-ce pas ? Ce qui fait que finalement, il y a eu aussi un effet de seuil de tolérance et que les Espagnols se sont mis à craindre aussi les Chinois. Voilà. Donc, ce qu'on peut dire, je pense, c'est que si les Espagnols avaient la domination politique, l'ordre espagnol, la domination politique, il est évident que les Chinois avaient la domination économique. Et qu'en fait, Manille, on peut peut-être l'interpréter comme une double enclave, une enclave politique espagnole en Asie, mais aussi une enclave économique et commerciale chinoise réunie à Manille. Et on va voir dans l'espace urbain comment ça s'est produit. Le dernier point qui me semble important serait celui qui pourrait s'intituler « Un paysage urbain discriminatoire ». Avec un intramuros où vous aurez compris que vous avez l'élite espagnole blanche qui est concentrée dans cet intramuros, mais pas seulement, puisqu'on a vu qu'il y avait un habitat espagnol aussi environnant, et un extramuros où vous avez les populations asiatiques qui sont concentrées et organisées par les Espagnols. Donc, les faubourgs asiatiques se développent le long du Pasig. Donc, vous avez une série de villages tagalogues qu'on peut citer comme Santiago, San Anton, San Miguel, San Lázaro. Vous avez par exemple le village de Dilao, où sont concentrés les Japonais sous l'égide des franciscains, qui sont donc christianisés, évangélisés par les franciscains. Et puis vous avez ce quartier essentiel, le quartier chinois, que vous avez ici. Alors il y a eu plusieurs quartiers chinois. Il y a d'abord ce quartier commercial, vous voyez ces maisons alignées, qui est le marché chinois. Donc c'est un quartier essentiellement résidentiel, mais qui sert aussi de lieu, un quartier commercial, un marché, mais qui sert aussi de lieu de résidence aux marchands chinois ambulants, aux marchands chinois saisonniers. Parce qu'il y avait une partie des Chinois qui venaient de façon saisonnière vendre à Manille et qui repartaient. Et vous avez les Chinois qui s'installaient, qui avaient décidé de s'installer définitivement dans l'archipel et qui, eux, on les incitait à habiter plutôt un village, le village de Binondo, où les Espagnols ont souhaité concentrer les Chinois chrétiens, qui étaient aussi évangélisés par les Dominicains. Donc, vous voyez, il y avait une répartition des missionnaires aussi par population asiatique. Voilà. Alors, les Chinois, je vous ai dit, cette croissance fulgurante de la minorité, du groupe chinois, une quarantaine de familles commerçantes à l'arrivée de Legazpi. On compte à peu près 3000 Chinois en 1591. En 1603, je vous dis, un massacre de plus de 20 000 Chinois. Donc, ils étaient probablement autour de 24 000 en 1603. Si je reprends les expressions de certains historiens comme Pedro Ortiz Armengol, il nous dit que Manille était devenu le Pérou des Chinois, hein, c'est-à-dire l'endroit où il faut être et où le commerce est le plus lucratif. Et vous avez ce témoignage de Gaspar de San Agustín qui vous dit « Estos son los que ejercitan en las Filipinas los más oficios mecánicos ». Voilà, les artisans, ce sont les Chinois. Hein. « Por ser gente tan hábil que con facilidad se aplican a todos cuantos oficios quieren. Y cuando les va mal con uno, le dejan y toman otro. Y usan de él como si le hubieran ejercitado todos los días de su vida. » Donc en plus, donc ce sont des artisans tout à fait professionnels, mais en plus, ils peuvent changer de profession et de métier en fonction des nécessités. Voilà, alors ce parian, hein, qui est donc un terme malais pour désigner le marché chinois, il est très intéressant de voir que les Espagnols le comparent à un souk, le comparent avec des référents mauresques. Hein. Un souk, un bazar, et le terme qui revient le plus souvent, c'est alcaicería, donc un marché de la soie, hein, pour évidemment se référer aux produits essentiels et différents types de soie qu'exportaient les Espagnols grâce aux Chinois. Voilà, donc vous aurez compris que la morphologie urbaine, hein, que ce soit l'intramuros, que ce soit les villages environnant Manille, cette morphologie urbaine a été conditionnée par le commerce du galion, hein, qui a vraiment défini le modèle urbain de Manille, me semble-t-il. Voilà, on va conclure peut-être. Hein. Alors, donc vous aurez sûrement compris aussi que du coup, il y a eu un urbanisme déséquilibré, c'est-à-dire que Manille a fini par absorber l'essentiel des forces espagnoles. Donc même si jusqu'au début du XVIIe siècle, on a six villes coloniales fondées dans l'archipel, alors là, je peux peut-être revenir à ma carte. Je sais que ce n'est pas très clair, mais bon, vous avez pas. Donc, Manille ici, première ville. Vous avez Cavite, deuxième ville fondée à Luçon, ville portuaire. Vous avez la Villa Fernandina, qui a été fondée au nord à Ilocos. On en est à trois villes. Vous en avez une autre, ça y est, je vais l'avoir oubliée. Et vous allez avoir aussi la fondation d'Arévalo Otón à Panay, qui sera aussi une ville de garnison pour défendre les Visayas. Et vous avez la première ville fondée à Cebu aussi. Donc fondation de six villes espagnoles, mais en fait l'essentiel des Espagnols concentrés à Manille. Donc dans les villes de province, vous pouviez avoir 6, 10 Espagnols, pauvres Espagnols qui vivaient dans les villes de province, mais l'essentiel des forces était regroupé à Manille. Voilà, donc pour conclure, je dirais que le modèle colonial aux Philippines, la façon dont je le ressens ou je le vois, c'est un petit peu un modèle à mi-chemin entre l'emporium, le comptoir tel que les Portugais avaient pu le développer à Macao, par exemple. On est à mi-chemin entre ce comptoir commercial et la réalité américaine, puisqu'on a la prétention de dominer tout l'archipel. Puisqu'on est installé dans différents points de l'archipel, et c'est essentiellement grâce aux missionnaires, hein, c'est les différents ordres missionnaires, et en particulier les jésuites, qui vont assurer une présence espagnole dans les Visayas, dans les îles centrales. Hein. Donc on a une colonisation à mi-chemin entre l'emporium, je pense, et la domination territoriale telle qu'elle a pu se passer en Amérique, la domination sur de vastes espaces. Là, vous comprenez bien que les Espagnols n'avaient pas les moyens humains de dominer complètement l'archipel philippin. Voilà, donc je pense que c'est une idée que je pense importante, cette idée de modèle colonial à mi-chemin. L'autre idée, c'est donc effectivement un modèle urbain déséquilibré avec une Manille macrocéphale et des villes coloniales provinciales qui vont vivoter, hein, vivoter ou péricliter. Alors il faut attendre la fin du XVIIIe siècle, en fait, pour qu'il y ait une reprise de vie coloniale dans d'autres îles de l'archipel. Puisqu'avec le déclin du commerce du galion, le galion s'arrête en 1815. Après, il y a un commerce libre, hein, qui va s'effectuer directement entre l'Espagne et les Philippines, puisqu'il y a perte de l'Amérique. Donc, finalement, les ressources intrinsèques de l'archipel vont plutôt être développées à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec une récupération d'une vie coloniale provinciale qui va en partie rééquilibrer cet historique. Voilà, j'aurais voulu. Donc, Manille, on peut conclure aussi comme le fait que ce soit un emblème, hein, de la souveraineté espagnole durable en Asie. Même si tous les documents officiels vantent la prospérité, la monumentalité de Manille, il faut bien voir que cette réalité est extrêmement précaire. C'est-à-dire quand le galion faisait naufrage et que quand les arrivées d'argent ne parvenaient pas à Manille, c'était la ruine des habitants. Hein, donc, cette prospérité était une prospérité de façade, mais extrêmement précaire. Voilà. Et puis, des choses que dont je n'ai pas le temps de parler, c'est qu'effectivement, Manille a été un tremplin et a été une place forte importante pour d'autres projets que les Espagnols ont voulu mener en Asie, hein, mais auxquels ils se sont confrontés à différents échecs, en Chine tout particulièrement, mais aussi vis-à-vis du Japon, comme d'autres tentatives au Cambodge ou au Siam. Voilà, je crois que ça suffira peut-être. Je vous remercie beaucoup.